Alors, tout d'abord, parce que j'ai pensé que ça pouvait intéresser certains d'entre vous, je vous ai signalé le livre de Wenham. Ce Wenham-là s'écrit John Wenham. Et ce John Wenham a donc fait ce livre, j'ai la date là, qui est donc de 1991. C'est donc un livre. Alors je pense surtout à vous, là vous m'avez posé une question au sujet des évangiles synoptiques. Alors je m'étais trompé, le titre c'est Redating Matthew, Mark and Luke. D'accord ? Et c'est un livre qui est un examen nouveau sur le problème synoptique. Alors c'est un livre de 300 pages, hein, c'est un livre de 300 pages, et c'est un homme, comme je vous l'ai dit, qui a consacré 30 années de sa vie à l'étude des synoptiques et des relations entre les synoptiques. Alors, c'est un livre qui a été publié en Grande-Bretagne, c'est une entreprise bien connue en Grande-Bretagne, qui s'appelle Hodder and Stoughton. Hein? Alors, c'est un livre que je vous recommande, parce que c'est le plus nouveau des livres sur le problème synoptique, et c'est un livre vraiment... Enfin, moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Alors, d'autre part, je voulais vous signaler que l'autre Wenham dont je vous ai parlé, c'est J, je ne sais pas ce que J représente, Gordon Wenham. Alors, celui-ci, c'est John Wenham. Et alors, Gordon Wenham, qui est professeur au Collège Saint-Paul et Sainte-Marie à Cheltenham, dans, en Angleterre. Et alors, il a publié un commentaire du Lévitique en 1979, c'est donc plus ancien, et un commentaire sur le livre des nombres en 1981. Et j'ai noté aussi, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous, qu'il a, c'est en rapport avec certaines choses que nous avons dites hier, il a écrit dans le journal des études de l'Ancien Testament, un article sur le symbolisme des rites animaux dans Genèse 15. Vous savez, c'est le passage justement où il est question de cette flamme divine qui traverse entre les animaux découpés. Alors, il y a tout un article dans le journal d'études de l'Ancien Testament de ce G. Gordon Wenham. Hein? Alors, voilà, c'est pour dire qu'il y a bien deux Wenham tout à fait différents, celui qui est l'auteur de Redating, là, pour les évangiles synoptiques, et puis l'autre qui a fait des commentaires sur les nombres et les lévitiques. Et je vous recommande particulièrement le commentaire du Lévitique. Ça vous permettra de prêcher sur le Lévitique, sans problème. Alors, d'autre part, je vous ai noté pour vous, là, un autre livre qui peut vous intéresser pour votre sujet. Je voulais vous demander, là, puisque vous êtes espagnol, là, en face de moi, est-ce qu'on a republié certains ouvrages de Juan Valdez ou pas? Vous ne savez pas. Vous en avez, vous? Parce que, je dis ça parce que je viens de voir là, il y a un grand théologien calviniste, un théologien raffermé du XVIe siècle, qui s'appelle Pierre Martyr Vermigli. Et Pierre Martyr Vermigli, qui a fait un travail. Calvin disait qu'on ne pouvait pas lire mieux que Pierre Martyr Vermigli sur les sacrements. Donc c'est celui-là important. Et alors à plusieurs reprises, Juan Valdez, le réformateur espagnol, mais enfin il a vécu presque toute sa vie à Naples après, eh bien, est cité à plusieurs reprises par Pierre Martyr Vermigli. Bon, enfin, ce sont deux théologiens du XVIe siècle. Alors. Ah, c'est ça. Le dialogue de la doctrine chrétienne. Ah. 1929, c'est une
édition.
Ah, mais je vois que personne ne l'a lu. Il n'est pas coupé encore. Les pages sont.
C'est souvent dans les bibliothèques, vous savez.
Ah, c'est souvent.
C'est pas le premier, ça. Hein?
C'est pas à moi de tout lire. Hein?
J'ai eu un bouquin sur la censure. Pas vu comme ça.
Voilà. Alors là, on ne dit pas Juan Valdez, on dit Juan de Valdez.
Juan de Valdez, oui.
Et c'est le bon nom, c'est Juan de Valdez. Juan parce de qu'il Valdez. Est cité généralement simplement, on met Juan Valdez, mais au fond, c'est Juan de Valdez. Mm. Merci bien. Ben alors, si ça peut intéresser quelqu'un qui lit l'espagnol, là, c'est habla espagnol,
señor. Ah, l'espagnol, pas très bien, mais...
Un poquito. Alors, nous allons maintenant poursuivre notre étude. Et je voudrais d'abord vous dire quelques mots au sujet du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu, ce ne sera pas long, ce sera ma première partie, et ensuite nous aborderons, ce sera surtout le thème de cet après-midi, le discours sur le mont des Oliviers, discours prononcé par Jésus, qui nous est rapporté à trois endroits différents. Il nous est rapporté essentiellement dans le chapitre 24 de Matthieu, mais il nous est aussi rapporté dans Marc dans Luc. Donc les trois évangiles synoptiques nous parlent de ce discours. Enfin, sous sa forme la plus extensive, c'est Matthieu 24. Alors nous regarderons donc cet après-midi à ce discours rapporté dans Matthieu 24. Consacré, sacrificateur et prophète par son baptême, Jésus-Christ est aussi consacré roi, roi du royaume de Dieu ou des cieux. Vous savez que si l'évangile de Matthieu ne parle pas de royaume de Dieu, mais de royaume des cieux, c'est que, en général, même on peut dire constamment, les Juifs n'aimaient pas prononcer le nom de Dieu. Alors il y a la vieille discussion au sujet de Jéhovah. On disait Jéhovah jusqu'au début de notre siècle, et puis maintenant on dit plutôt Yahvé. En réalité, nul ne sait comment prononcer le tétragramme, pour une simple raison, c'est que justement les Juifs se refusaient à le prononcer. C'est pourquoi dans les traductions anglaises, par exemple, en général, on met toujours le Seigneur à la place de, du nom imprononçable de Dieu. Et vous savez que les Juifs remplaçaient toujours Yahvé ou Jéhovah, le tétagramme, par Adonai. C'est pour ça que lorsque les Juifs récitent le Shema Israël, ils disent toujours Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Rad. Et donc, en réalité, dans le texte, il y a le tétragramme, Jéhovah ou Yahvé, mais à la place, on met Adonai. Donc, lorsque les versions anglaises mettent « the Lord » à la place de Yahvé, c'est bien. Je crois qu'en effet, pour ma part, enfin, résolument, vous avez peut-être remarqué, je me refuse aussi à prononcer le nom de Dieu, puisque les Juifs ne le prononçaient pas, et à la place, je mets toujours le Seigneur. C'est-à-dire, je fais exactement comme font les Anglais et comme font les Juifs eux-mêmes, puisque Adonai, c'est le Seigneur. Dans son ministère, Jésus dit que le royaume de Dieu est proche. Déjà, Jean le Baptiste avait annoncé le royaume de Dieu est proche. Mais avec Jésus, si le royaume ne commence pas vraiment, en un autre sens, il commence en ce sens que Jésus est le roi du royaume. Et donc, le royaume existe en tout cas en la personne du roi. Et puisqu'il est là, le royaume de Dieu est là. Il n'y a pas encore les sujets du royaume. On peut dire que les sujets du royaume ne vont exister qu'à partir de Pentecôte. Mais si le royaume n'a pas encore de sujets, il a, on pourrait dire, si le mot existait, des pré-sujets en la personne des disciples. Et en tout cas, le roi du royaume est là. Et les disciples sont invités à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et pour cela, à demander l'Esprit-Saint sans qui nul ne peut entrer dans le royaume et vivre de sa justice. D'ailleurs, là ce serait intéressant de faire une étude exégétique, mais on peut dire que le royaume et la justice sont des synonymes. C'est-à-dire que nous avons vu ce matin que la justice, selon le dictionnaire qui est la Bible est son propre dictionnaire. Le premier dictionnaire biblique, c'est la Bible elle-même. Si on veut bien comprendre les mots de la Bible, il faut s'adresser au premier dictionnaire de la Bible, qui est la Bible elle-même. Et on s'aperçoit que la justice, nous l'avons vu, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, chercher le royaume et l'accomplissement de la loi, et le reste, dit Jésus, vous sera donné de surcroît. D'ailleurs, l'idée primordiale au point de vue biblique du royaume de Dieu nous est donnée par le prophète Daniel. J'ai noté, en lisant les Antiquités juives de Flavius Joseph, voilà ce que dit Joseph dans les Antiquités judaïques. Je vous donne, j'ai oublié de vous le donner, les dates de Joseph. Il est né en 37 et il est mort en 100. C'est-à-dire qu'il est né quelques années après la mort de Jésus et il est mort 30 ans après la destruction du temple de Jérusalem. Alors dans les Antiquités judaïques, non pas dans la guerre des Juifs, mais dans les Antiquités judaïques, voilà ce que dit Flavius Joseph au sujet de Daniel. Tous les livres qu'il a composés et laissés sont lus encore maintenant parmi nous. Daniel fut un prophète de bonheur et il nous a laissé par écrit la preuve de l'exactitude immuable de la prophétie. J'aurai à reprendre la question de l'exactitude immuable de la prophétie de Daniel. D'ailleurs, Daniel a des prophéties indicatives extrêmement nettes, non seulement dans son chapitre 2, mais dans son chapitre 7, dans son chapitre 9. Donc, si vous voulez, avec Daniel, nous avons affaire à un prophète assez extraordinaire, parce que la prophétie en général n'est pas tellement d'abord prédiction, mais Daniel a fait des prédictions tout à fait extraordinaires. Si bien que j'ai noté au passage qu'un juif comme Joseph était très sensible à l'exactitude de la prophétie de Daniel. Alors, c'est dans Daniel qu'on trouve la première figure du royaume de Dieu. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, c'est rapporté dans le chapitre 2 de Daniel. Le roi Nabuchodonosor, il est appelé Nabucodonosor dans la Bible, mais en français général, on le désigne comme Nabucodonosor. Eh bien, Nabucodonosor, Nabucodonosor, comme vous voudrez, choisissez ce qui vous plaît, avait eu un songe, et ce songe, c'était la vision d'une statue assez extraordinaire, qui était composée de quatre pièces, de quatre parties. Et puis finalement, on voyait la succession des royaumes, là, la succession des royaumes. Au point de vue, si vous voulez, historique, on peut distinguer le royaume babylonien, le royaume perse, le royaume grec, ou le royaume d'Alexandre, le royaume macédonien, si vous préférez, ou disons gréco-macédonien d'Alexandre, et finalement l'Empire romain. Et dans la vision, Nabucodonosor a vu une pierre, une petite pierre, qui roulait, qui arrivait, qui frappait les pieds de la statue, qui était d'ailleurs un composé de métal et d'argile, et tous les royaumes s'écroulaient, tout ça, ça s'écroulait, et curieusement, parce que là, dans les rêves, vous savez, les choses sont bizarres, la petite pierre qui avait roulé et qui avait fait tomber la statue était devenue une montagne. Et alors, lorsque Nabucodonosor s'enquiert du sens de la prophétie, il tombe sur Daniel, qui était un homme d'État, qui était un juif exilé, mais qui était un homme d'État à côté de Nabucodonosor. Nabucodonosor l'avait, si je peux les faire entrer dans son cabinet. Et Daniel lui dit, voilà le sens de la statue. Et c'est là où il parle d'un cinquième royaume, donc d'un royaume qui vient après les quatre autres. Et ce royaume-là, qui au départ comme pierre pulvérise la statue, et puis qui ensuite devient une grande montagne remplissant toute la terre, tout ça c'est dans Daniel 2, 31-35, il conclut, voilà la conclusion de Daniel, « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et subsistera éternellement. » Daniel 2, 44. Au fond, c'est là qu'apparaît d'une façon précise, dans les écrits vétérotestamentaires, l'idée du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu arrive à la suite des quatre royaumes babyloniens, perses, grecs et romains, comme devenant une montagne, un royaume montagne. C'est d'abord un royaume pierre, ça c'est Jésus, le royaume pierre, qui devient finalement un royaume montagne couvrant toute la terre. Et l'Apocalypse précise, chapitre 11, verset 15, le royaume du monde, la royauté, le règne sur le monde, est passé à notre Seigneur et à son Christ qui règnera pour les siècles des siècles. Apocalypse 11, 15. Donc, si vous voulez, si nous avons d'un côté la prophétie de Daniel en son chapitre 2, et d'autre part la déclaration de l'Apocalypse en son chapitre 11, nous voyons que il y a un éclairage à la fois de l'Ancien Testament et du dernier livre du Nouveau Testament sur ce règne de Dieu qui est confondu avec le règne du Christ, du moins pendant un temps. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Alors, Jésus a donné un certain nombre de paraboles qu'on appelle précisément les paraboles du royaume. Donc on peut dire que Daniel nous donne la parabole de la statue, qui est une parabole du royaume, mais Jésus, lui, a donné plusieurs paraboles du royaume. Alors il y en a une qui est très, très brève, très mystérieuse et très profonde. C'est la célèbre parole de Jésus en Jean 12, 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce qui veut dire, au fond, qu'il faudra que le roi du royaume de Dieu, qui est le grain du royaume, meure, et il resterait seul s'il ne mourait pas, mais parce qu'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc nous avons, avec Jésus, dans les années 1 à 30, et surtout dans les années 27, 28 à 30, nous avons le roi du royaume de Dieu qui va mourir afin de porter beaucoup de fruits, et les fruits qu'il va porter, ce va être le développement du royaume. Alors, le développement du royaume, Jésus en parle. En particulier, par exemple, dans la parabole de Matthieu 13, 31-32, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Donc, c'est pareil, Matthieu ne veut jamais dire royaume de Dieu, il remplace toujours Dieu par les cieux, par respect pour le nom sacré imprononçable. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Par là, notre Seigneur indique la croissance extensive du royaume de Dieu. À partir de la mort, du sacrifice volontaire et expiatoire du roi du royaume, le royaume de Dieu ne va cesser de croître au long des siècles. Ça n'était qu'une graine qui est morte, mais grâce à sa mort, la graine va peu à peu devenir un arbre qui ne cessera de croître jusqu'à ce que les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Donc, croissance extensive du royaume de Dieu. Mais une autre fois, alors il va y avoir l'indication de la croissance intensive du royaume de Dieu. C'est aussi dans Matthieu 13, mais c'est à la suite de l'autre parabole. La parabole de la petite semence se trouve au verset 31-32, et la parabole suivante est au verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mêlé à 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alors là, il ne s'agit plus de la croissance extensive du royaume de Dieu, du développement historique extensif du royaume de Dieu, mais du développement intensif. La pâte du monde, la pâte de l'histoire va peu à peu lever parce que le royaume de Dieu est le levain qui va faire lever toute la pâte. Donc, croissance extensive, croissance intensive, mais finalement, il va y avoir, à partir de Jésus-Christ, dans les années 30 à 70 de notre ère, une croissance extensive et intensive incroyable du royaume de Dieu. Vous savez, c'est vraiment un phénomène historique bouleversant, à tous les sens propres et figurés du mot bouleversant. Quand Jésus meurt, il ne laisse derrière lui que quelques disciples désemparés, que quelques apôtres qui vont d'ailleurs retourner à leurs occupations ordinaires. Et puis tout à coup, il va y avoir la Pentecôte. Et voilà que à partir de là, disons entre l'année 30 et l'année 70, tout va basculer dans l'œcuménée. On appelait œcuménée l'ensemble, c'était l'ensemble de l'Empire romain, disons tout le pourtour de la Méditerranée. Eh bien, en 40 ans, il va y avoir un travail d'évangélisation tel, non seulement par les apôtres, par les évangélistes, par des hommes, je dirais, qui se consacreront à ce travail, mais je dirais par des commerçants, par des soldats, par des femmes, des lavandières, des gens tout simples de tous côtés. Tout à coup, les églises vont couvrir l'Empire romain. En l'an 70, on peut dire que toute l'œcuménée a entendu retentir l'Évangile. Donc il y a une marche du royaume de Dieu incroyable dans ce temps apostolique des années 30 à 70. Mais nous ne sommes pas encore à ces années-là, nous sommes encore aux années 1 à 30 de notre ère. Alors là, c'est le temps où Jésus, comme roi du royaume, va marcher intrépidement mais obstinément vers sa croix, vers sa mort. Et là, il faut noter un point important qu'on escamote trop souvent. Quand on parle de la mort de Jésus-Christ et quand on parle des souffrances de Jésus-Christ, on évoque souvent, principalement, sinon uniquement, les souffrances physiques, avec le rapport que les souffrances physiques peuvent avoir avec le moral d'un homme, alors que le drame de la croix n'est pas là. On le voit très bien dans les évangiles, lorsque Jésus, au jardin de Gethsémani, entre dans une agonie, le mot agonie en grec veut dire combat, entre dans une agonie, dans un combat de prière, est-il pris son père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui? Jésus ne cherche pas du tout à échapper à la mort. Le problème de Jésus n'a jamais été d'échapper à la mort ou d'échapper à la souffrance. Ce n'était pas là qu'était son problème. Le problème de Jésus, et le Nouveau Testament l'atteste, c'est que celui qui est le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, qui est Dieu le Fils incarné, Jésus va devoir se placer sous la malédiction de Dieu, et il va même devoir, lui qui est le Saint, être coupé de Dieu. Et il devra aller jusqu'à prononcer la parole du début du psaume 22, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est ça devant quoi tremble Jésus. C'est que lui, qui est Dieu, le Fils incarné, lui qui est le Fils bien-aimé du Père, lui qui est dans la communion du Père de toute éternité, il doit aller à la malédiction du Père et à la séparation d'avec le Père. Et ça, d'ailleurs, c'est un mystère tel que nous butons devant ce mystère. Vous avez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être lu, parce que je vous conseille de les lire dans leur traduction anglaise, ceux bien sûr d'entre vous, nous avons un collègue néerlandais, il n'y a pas de problème, mais il y a trois volumes admirables de prédications de Klaas Schilder sur la passion de Jésus-Christ. Et on voit dans cette œuvre de Schilder où se trouvait précisément le point, c'est le point que je viens de souligner. Jésus ne craint pas la mort. Jésus ne craint pas la souffrance. Jésus n'est pas un lâche qui recule devant la mort ou devant la souffrance. Non. Ce qui le fait reculer est la coupe à laquelle l'idée lui est impossible. C'est d'être séparé de Dieu. C'est d'être malédiction à notre place. Et d'entrer dans l'enfer, dans la mesure où on peut définir l'enfer comme la séparation d'avec Dieu. Voilà, lui qui est le Saint, lui qui est le Fils, on lui demande d'être traité comme le péché même, et on lui demande d'être séparé de Dieu, et de descendre à cet enfer-là. Voilà. Alors c'est pour ça que je vous recommande la trilogie de Thriller, parce que c'est vraiment... c'est une suite de prédications, je ne me souviens plus combien il y en a, enfin plusieurs dizaines de prédications, et tout cela pour bien mettre en évidence le mystère de la passion du Christ. La passion du Christ ne se situe que très secondairement au niveau de la souffrance physique et de la mort physique. Non, la passion, c'est la passion de devenir malédiction, de souffrir, d'être maudit de Dieu et séparé de Dieu. Et on bute là devant un problème. Comment Dieu, le Fils, peut-il être séparé de Dieu ? Et on a raison de dire, ça n'est pas possible. Et c'est cet impossible, cependant, qui a été la réalité profonde de la croix. Alors là, nous sommes devant un mystère. Il s'agit du mystère de notre salut, il s'agit du mystère de l'amour de Dieu qui est allé jusque-là, et du mystère de l'incarnation, qui n'est pas seulement d'être une incarnation pour la mort, mais d'être une incarnation pour cette malédiction et cette mort-là, cette souffrance-là. Alors, avant Thriller, celui qui a commencé à mettre les choses en évidence dans ce sens-là, c'est en particulier Saint Anselme. Saint Anselme, vous savez, qui est un des grands docteurs du Moyen-Âge, d'ailleurs c'était un docteur augustinien du Moyen-Âge, et Saint Anselme a écrit un livre qui est très étonnant, parce qu'il est rédigé, j'allais dire, presque froidement. Non pas rationalistiquement, mais quelque chose de rationnel, mais je dirais plutôt de logique, au sens où la logique, c'est ce qui se rapporte au logos. C'est le cours Deus Homo. Pourquoi Dieu s'est-il incarné ? Pourquoi le Dieu homme ? Cours Deus Homo. Et Saint Anselme montre bien cette direction dans laquelle, alors, celui qui s'engagera plus à fond là, et qui vraiment le montrera le mieux, c'est Calvin dans son Institution de la religion chrétienne, Institutio Religionis Christiane, mais pas seulement dans l'institution, mais dans les commentaires qu'il a fait sur la passion du Christ. Et Thriller, je dirais, s'inscrit dans la ligne, bien sûr, d'abord et principalement de la Bible et du Nouveau Testament, mais il s'inscrit dans la ligne de Saint Anselme et de Calvin dans la trilogie qu'il a écrite, qui est au fond un ensemble de prédications ou de commentaires bibliques, comme on voudra. D'ailleurs, une prédication n'est pas autre chose qu'un bon commentaire biblique sur la passion de notre Seigneur. Voilà. Alors ça, c'était mon premier point. Mais le deuxième point, c'est celui du discours sur la montagne des Oliviers. Vous savez que quelquefois, on a appelé ce discours et les parallèles dans Marc et dans Luc, on a parlé des petites apocalypses. J'aime pas du tout ce nom. D'ailleurs, il faut se méfier, dès qu'on emploie le mot petit, on risque d'aller de travers. Moi, je me rappelle, étant jeune, j'avais été très frappé parce qu'on parlait des grands prophètes et des petits prophètes. Alors, je m'étais imaginé comme enfant qu'il y avait des grands prophètes et des petits prophètes. Ensuite, on m'a expliqué que ça venait de la longueur de leurs livres. Alors, les grands prophètes, c'était Isaïe, c'était Jérémie, c'était Ézéchiel, c'était Daniel, c'était... Et puis, il y avait les petits prophètes, là, qui se couraient après, Osée, Amos, Joël, etc. Et... j'ai compris que c'est très dangereux d'employer le mot petit. Petites apocalypses, surtout quand il s'agit de discours de Jésus, c'est quand même embêtant. Je préfère dire les apocalypses synoptiques. Hein, ça, j'aime mieux qu'on dise ça, parce que c'est un discours très important. Alors, pour ne pas trop dévier, je voudrais que nous prenions, vous pouvez prendre vos Bibles, ou vous pouvez prendre vos nouveaux testaments grecs, si vous préférez, comme ça vous plaît le mieux. Alors vous prenez donc Matthieu au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. Alors, je n'aborderai dans la suite qu'une partie de ce chapitre, c'est-à-dire j'irai jusqu'au verset 35 de ce chapitre. Hein, de ce chapitre. Disons les versets 1 à 34, parce qu'ils forment vraiment un ensemble. Et je voudrais d'abord vous replacer dans le contexte, dans la situation. Jésus est à la fin de son ministère, que ce soit dans Matthieu 24, dans Marc 13 ou dans Luc 21, Jésus est à la fin de son ministère. Et juste avant, au sortir du temple, ses disciples lui avaient fait remarquer la beauté du temple. Alors là, une brève parenthèse, nous sommes en l'an 30, le second temple bâti au retour de l'exil au 5e siècle avant notre ère, brille au soleil. Pourquoi? C'est parce que le roi iduméen édomite, Hérode le Grand, pour plaire aux Juifs, avait, et pour se les concilier, avait fait entreprendre des travaux qui ont duré plusieurs décennies et qui continuaient même. Hérode le Grand était mort, et qui ont continué après la mort d'Hérode le Grand, ont continué encore à restaurer le second temple au moment de Jésus. Alors, les bâtiments et les pierres brillaient sous le soleil, ça apparaissait neuf. Le temple, qui avait été bâti donc, qui était le second temple, bâti au 5e siècle avant notre ère, brillait comme tout à neuf. Et les disciples avaient fait remarquer à Jésus la chose. Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction! Et à leur étonnement, Jésus répond, voyez-vous, tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors les disciples sont interloqués, ils sortent du temple, ils font admirer le temple à Jésus, et Jésus leur dit que tout ça, ça va disparaître. Alors, ils restent avec leur interrogation. Et quand ils parviennent à la montagne des Oliviers, Jésus s'assied. Et alors, les disciples, en privé, viennent lui dire, « Dis-nous, quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement et de la fin ?» Alors là aussi, il faut bien voir de la fin. La fin de quoi ? Alors, souvent, dans la traduction, la fin du monde. Pas du tout. Dans le texte grec, il est question de la fin de l'éon. L'éon, c'est-à-dire de l'ère, de l'âge, sous-entendu, où nous sommes. C'est le mot grec aion, qu'on donne en français comme éon, hein, c'est le mot grec aion qui est employé. Et alors Jésus va répondre par tout un développement. Il faut faire attention. Au long de son ministère, il faut voir le contexte, hein, vous savez, il y a le fameux dicton, texte sans contexte n'est que prétexte. Alors, il faut regarder le contexte, aussi bien le contexte immédiat que le contexte général de la Sainte Écriture. Au long de son ministère, Jésus a annoncé de plusieurs manières la fin de l'ère présente, qui va devenir ère ancienne. Par exemple, Matthieu 8. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah ! Voilà une première approche. Mais Jésus a poursuivi cela, par exemple dans la parabole des noces. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler les invités, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, mais négligemment les invités s'en allèrent. D'autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut en colère, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Et il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, les invités n'en étaient pas dignes, allez donc au carrefour, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et la salle de noces fut remplie de convives. Ça c'est au chapitre 22 de Matthieu. Donc avant ce chapitre 24, déjà au chapitre 8 de Matthieu, puis au chapitre 11, Jésus annonce quelque chose qui va finir, un espèce de tournant dans l'histoire de l'Alliance, ou plus exactement la fin d'une ère, d'un éon, d'un aïon de l'histoire de l'Alliance, et l'avènement d'une nouvelle ère, d'une nouvelle disposition du royaume. D'ailleurs, Jésus, alors ça c'est la terrible parabole des vignerons, Jésus dit à l'approche des vendanges, le maître de maison qui avait loué sa vigne envoya ses serviteurs, puis encore d'autres serviteurs, pour recueillir la vendange. Bon, alors voilà ce que dit le texte. Il envoya ses serviteurs que les vignerons prirent, ils frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent un troisième. Alors il envoya vers eux son fils en disant, ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et maintenant, que fera le maître de la vigne à ses vignerons? Il fera périr misérablement ses misérables et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. Alors il était écouté par tous les juifs qui étaient là, et en particulier bien sûr par les pharisiens et par les principaux sacrificateurs. Et Jésus leur dit, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira des fruits. Alors il y a un acheminant, c'est là où on voit la construction particulièrement orientée vers les juifs de l'évangile de Matthieu. Ça va croissant. Tout au long de l'évangile de Matthieu, ça va de précision en précision. Alors il y a cet ensemble dont je viens de vous parler. Alors quand on arrive au chapitre 23 de Matthieu, alors là, c'est terrible. Vous savez que Jésus, au début du discours sur la montagne, avait prononcé sept bénédictions plus une. Eh bien, dans Matthieu 23, il prononce sept malédictions plus une. Autrement dit, il commence son ministère en énonçant sept bénédictions plus une, et ensuite il va donner sept, à la fin de son ministère, juste avant sa mort, sept malédictions plus une. Et, je dirais, on va vers un sommet dans tout ça. Et le sommet est précisément juste avant le discours des Oliviers. Alors là, il faut voir ce qui est dit dans Luc 23, 26, 31. Vous savez que Jésus est chargé de sa croix. Il va vers le Golgotha, le lieu du crâne, et il y a des femmes qui pleurent sur son sort. Et il leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, viennent les jours où l'on dira, « Heureuses les stériles, celles qui n'ont pas enfanté et pas allaité. » Et on dira alors aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Voilà, ça c'est ce que j'appelle le contexte de l'Apocalypse mathéenne. Et c'est pourquoi, dans le remarquable commentaire paru, je crois, il y a 5 ans, de David Chilton sur l'Apocalypse, et qui s'appelle « Les jours de vengeance », un jour de vengeance. D'ailleurs, Jésus avait parlé de jour de vengeance. Il vous suffit de lire justement dans le discours sur les Oliviers, dans le récit qu'en fait Luc, au chapitre 21, au verset 22. Jésus l'a prédit les jours de vengeance qui vont bientôt tomber sur le temple, sur Jérusalem et sur Israël, et, il faut le préciser, qui vont tomber du vivant de cette génération, avant que ne passe cette génération. Alors là, c'est répété dans les trois synoptiques, Matthieu 24, 34, Matthieu 13, 30 et Luc 21, 32. Alors c'est là où il faut, en exégèse, être précis. Être précis. La fin dont parle Jésus. Vous savez qu'on parle d'eschatologie quand il s'agit de la fin, parce que eschata en grec, ce sont les choses dernières, les réalités dernières. Et c'est vrai que le discours de Matthieu 24, avec ses parallèles dans Matthieu 13 et Luc 21, c'est un discours eschatologique. Mais attention, Jésus ne parle pas de la fin du monde. Il parle de la fin d'un monde. Il parle de la fin d'une ère, d'un aïon, d'un éon, et la fin de ce monde, de cette ère, de cet aïon, va se produire du vivant de la génération qui écoute Jésus. C'est très important parce que, c'est ce point précis dans cette génération qui marque. Voilà, vous avez l'affirmation qui se trouve au verset 34. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera pas. Donc, il faudrait intituler Matthieu 24, non pas comme on l'a fait dans la Bible que j'ai, là, qui est la Bible second révisée, la Bible dite à la colombe, on met « discours sur la fin des temps ». Quelquefois, on a mis « discours sur la fin du monde ». Non. Il faudrait l'intituler « discours sur la fin de l'éon ancien ». Discours sur la fin de l'ère ancienne. Voilà. Et donc Jésus ne parle pas d'événements de l'eschatologie dernière, lorsque Jésus viendra dans sa gloire, lorsque Jésus ressuscitera les morts, lorsque sera opéré le jugement dernier, et lorsqu'il y aura la transfiguration de l'univers. Ça, c'est la grande eschatologie, l'eschatologie de la fin. Mais Jésus, là, dans Matthieu 24, parle de la fin d'un monde, de la fin de l'ère ancienne de l'Alliance. Et nous le verrons plus précisément demain et surtout après-demain, en réalité, ce que Jésus annonce, c'est le jugement de Dieu sur Israël qui va s'exécuter par la destruction de Jérusalem et du temple. Et c'est bien important de s'y dire. Alors là, vous avez un mot qui est employé ici, qui est très net, c'est le mot grec « genéa ». Genéa. Et le mot grec « genéa » est employé, je peux me tromper, alors vous vérifierez, mais si j'ai bien compté, 27 fois dans les évangiles et plus de 40 fois dans le Nouveau Testament. Mais donc, les 40 fois dans le Nouveau Testament, ça comprend les 27 fois dans les évangiles. Donc, 40 fois, le mot « genéa » est employé dans le Nouveau Testament. Et il a toujours, je répète, toujours, le sens clair et précis d'une génération. Et qu'est-ce que c'est qu'une génération? J'ai consulté là plusieurs dictionnaires du grec biblique, il ne peut pas y avoir de question. La génération, c'est un ensemble de contemporains. Ensemble de contemporains. Ce n'est pas un mot très précis, parce qu'un ensemble de contemporains, finalement, ça joue entre 20 et 50 ans. Hein, on ne peut pas dire une génération c'est 20 ans, une génération c'est 30 ans, une génération c'est 40 ans. Il faut rester dans un certain vague. Une génération, c'est une génération qui peut durer de 20 à 50 ans. Jésus dit, ce qui va arriver se passera du vivant de cette génération. C'est-à-dire, on peut dire 50 ans ou plus tard. Plus tard. D'ailleurs, si vous faites la distance entre l'an 30 et l'an 170, il y a 40 ans. Donc c'est bien dans cette génération que va arriver cette fin d'un monde, cette fin de l'ère ancienne, cette fin de l'Ancien Testament. Et tandis que l'arrivée du Christ dans toute sa gloire, à la fin du monde, à la fin de l'histoire, lors de la résurrection des morts, du jugement dernier et de la transfiguration universelle, là, nul ne sait le jour ni l'heure, et nul même ne peut prévoir la moindre chose au sujet de la venue en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes près de 2000 ans après Jésus-Christ. Ça peut être dans 3000 ans, ça peut être dans 50 000 ans, ça peut être dans 100 000 ans, nul n'en sait rien. Tandis que, quand il parle de la fin de l'ère ancienne, Jésus indique 7 signes avertisseurs, pas un de moins. Dans son discours sur le monde des oliviers, là on retrouve les montagnes encore, là on aurait pu en parler, mais je vous ai parlé des montagnes hier matin, mais là aussi il s'agit de montagnes. On est là encore sur la montagne des oliviers, et Jésus donne 7 signes. Et ces signes, si je puis dire, sont de plus en plus précis. Il y a d'abord un groupe de 3 premiers signes qui sont plus généraux. 1. De faux Christ vont séduire beaucoup de gens. 2. Il va y avoir des guerres et des bruits de guerre. 3. Il va y avoir par endroits des famines et des tremblements de terre. Bon, alors donc, nous avons là 3 signes qui sont des signes assez généraux. Et puis alors, ensuite, les signes vont dans un second groupe. Et enfin, l'évangile aura été annoncé dans toute l'œcuménée, dans toute nation du bassin méditerranéen. Voilà. Alors donc, signes plus généraux, les 3 premiers, signes plus précis, les 3 suivants, et puis alors un signe encore plus précis, le dernier signe avertisseur avant cette venue du jugement de Dieu sur Israël, avant la vengeance de Dieu sur Israël, et donc avant la destruction de Jérusalem et du Temple, il y aura l'abomination de la désolation au sein d'une grande tribulation. Voilà. Alors, vous pouvez suivre ça. Je reprends au point de vue des versets. Les faux Christ, Matthieu 24, 4, 5. Des guerres et des bruits de guerre, Matthieu 24, 6, 7. Des famines et des tremblements de terre par endroits, Matthieu 24, 8. Voilà pour les signes plus généraux. Puis ensuite, on entre dans des signes plus précis. Le martyr de fidèles persévérants, Matthieu 24, 9 et 13. L'apostasie d'un grand nombre, c'est plus ou moins conjoint, parce que vous voyez, Matthieu 24, j'indique 9 et 13. On saute par-dessus les versets 10-12 qui indiquent comme signe l'apostasie d'un grand nombre. C'est montré que le martyr de fidèles persévérants sera concomitant avec l'apostasie d'un grand nombre. Matthieu 24, 10-12. Et puis l'évangile annoncé dans toutes les nations de l'œcuménée, Matthieu 14. Et alors c'est seulement après cela qu'il y a le long passage concernant l'abomination de la désolation et la grande tribulation. Voilà l'importance de cela. Alors, je réserve pour demain, parce que ça comprend les années, demain je vous parlerai des années 30 à 70, or nous sommes toujours dans les années 1 à 30, et là je vous parle de paroles que Jésus a prononcées en l'année 30, juste avant sa mort. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir historiquement l'accomplissement de tous les signes dont Jésus vient de parler, et leur accomplissement historique avant l'année 70. Mais je vais conclure, et ensuite nous aurons un entretien. Il faut examiner un instant, revenir un instant à la prière sacerdotale qui est contenue dans le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. Alors là, deux petites remarques. C'est intéressant au point de vue exégétique. L'Évangile de Jean ne comporte pas de parallèle à Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Autrement dit, nous n'avons pas d'apocalypse comparable aux apocalypses synoptique dans l'évangile de Jean. Mais, il faut tout de suite ajouter, mais, nous avons de Jean quelque chose d'extrêmement important. C'est le livre de l'Apocalypse. Disons que le livre séparé de l'Apocalypse, dans les écrits de Jean, c'est le livre qui correspond aux apocalypses synoptiques. Mais Jean, pour des raisons que nous expliciterons demain, Jean n'a pas introduit cette prophétie apocalyptique de Jésus dans son évangile. Il a réservé son apocalypse, c'est-à-dire les visions qu'il aura dans l'île de Patmos. Alors je reviens donc à la prière sacerdotale dans l'évangile de Jean. Vous serez bien aimable, vous avez eu Matthieu 24 sous les yeux, passez maintenant de Matthieu 24, s'il vous plaît, à Jean 17. La prière sacerdotale est une prière de Jésus qui a, si je puis dire, trois visées historiques différentes. Si bien qu'il y a trois parties. Première partie, les versets 1 à 5. Deuxième partie, les versets 6 à 19. Et troisième partie, les versets 20 à 26. Trois parties dans la prière sacerdotale. Et trois parties qui visent trois temps historiques ou trois moments historiques différents. Dans la première partie, Jésus prie pour lui-même. Il prie pour lui-même. Il commence par parler par lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'heure de sa passion. La prière sacerdotale, il l'a dite dans la chambre haute le jour de sa mort. Je dis le jour de sa mort, pourquoi ? Parce que pour les Juifs, vous le savez, le jour commençait à la tombée du soleil un jour et aller jusqu'au tombé du soleil du lendemain. Pour nous, les jours, nous les comptons généralement de minuit à midi, tandis que pour les Juifs, ils étaient comptés de 6 heures du soir, un jour, jusqu'à 6 heures du soir le lendemain. Il y a toujours, dans l'établissement des jours, des variations, selon les peuples, selon les... Les Juifs, c'était leur manière de compter. Donc quand Jésus dit la prière sacerdotale dans la soirée du jeudi saint, c'est une prière qu'il prononce le jour de sa mort. Puisqu'il va se trouver, être arrêté dans la nuit qui suit, il va avoir son procès le matin qui suivra, et il mourra à 3 heures de l'après-midi. Donc si Jésus dit sa prière, mettons à 7 heures du soir, c'est une prière qu'il a énoncée quelques heures avant sa mort, en tout cas moins de 24 heures avant sa mort. Et il prie pour lui. Il prie pour lui. Père, l'heure est venue. Alors ça, l'heure est venue dans les évangiles, on sait ce que c'est. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Et il dit un peu plus loin, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé, ou on pourrait dire j'achève, l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde. Donc, vous avez une première partie de la prière sacerdotale. Jésus prie pour lui. C'est important, ça veut dire que nous avons quand même le droit de prier pour nous, à condition que notre prière pour nous-mêmes ne soit pas une prière égoïste ou égocentrique, mais c'est une prière parce que nous avons besoin du secours de Dieu dans notre propre vie, et le Fils incarné a eu besoin du secours de son Père. Puis alors, la deuxième partie, Jésus prie pour le cercle apostolique. Pourquoi est-ce que j'emploie cette expression, le cercle apostolique ? Parce que je crois que là, il s'agit non seulement des apôtres, mais des disciples associés aux apôtres. Et de tout un ensemble, nous aurons l'occasion de parler de la constitution du Nouveau Testament. Là encore, c'est pour demain. Mais ce qui est important, c'est de voir que Jésus a une prière particulière. Après avoir parlé pour lui, il a une prière particulière pour le cercle apostolique. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Hein. Je leur ai d'ailleurs donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. C'est pour eux que je prie. Pour eux que je prie. Ils sont à toi. Je suis glorifié en eux. Moi, je vais cesser d'être dans le monde. Déjà, Jésus considère qu'il n'est plus dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je les ai préservés, aucun d'entre eux ne s'est perdu dans le cercle apostolique, sauf le fils de perdition, pour que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin, sanctifie-les par la vérité. Là aussi, c'est très important. Les apôtres et le cercle apostolique ont tellement besoin d'être sanctifiés par la vérité que c'est eux, en tout cas c'est sous leur autorité et sous leur supervision que va être composé les livres, que vont être composés les livres de la tradition apostolique. Il faut que la vérité les sanctifie. Parce que c'est leur parole est la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Donc, Jésus prie pour lui, première partie, et c'est pour le temps tout proche du jour qui vient, qui commence, qui a commencé. Ensuite, Jésus prie pour ceux qu'il va laisser, mais qu'il va accompagner par ce paraclétos, ce paraclet, qui est l'Esprit Saint, qui va leur envoyer le jour de Pentecôte. Et enfin, troisième partie, Jésus va prier pour ceux qui croiront en lui par la parole apostolique. Je te prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et alors, là, vous avez tout un développement sur tous les croyants. Et nous sommes, si je puis dire, au bénéfice de cette troisième partie de la prière sacerdotale. Il faut faire attention, il ne faut pas que nous appliquions à nous et à l'Église post-apostolique ce qui concerne le temps apostolique. D'ailleurs, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y a eu, par exemple, des dons, des charismes extraordinaires qui ont été accordés au cercle apostolique. C'est une erreur profonde de croire que c'était des charismes et des dons extraordinaires qui étaient valables pour toute l'Église à travers tous les siècles. Ça pose des sérieuses questions au sujet des mouvements charismatiques, au sujet du mouvement pentecôtiste, mais il y a toujours eu de ces mouvements au cours de l'histoire de l'Église, car c'est plus important, beaucoup plus important pour l'Église, de suivre la parole loi de Dieu que de disposer de moyens extraordinaires et de dons charismatiques. Tout le point est là. Comment l'Église est-elle vraiment l'Église après la mort des apôtres? Non pas en essayant de revenir, ce qui est d'ailleurs impossible, au temps des apôtres, avec les promesses qui étaient faites aux apôtres, et avec tous les miracles qui devaient accompagner le ministère des apôtres. Ça, c'est un retour en arrière. Nous n'avons pas à passer de la troisième partie de la prière sacerdotale à la seconde. Nous sommes dans la troisième partie de la prière sacerdotale. Et l'important pour l'Église après le temps apostolique, j'y reviendrai après demain matin, dans mon dernier cours, je dirais, l'important c'est d'obéir à la parole loi de Dieu. L'Église c'est ça sa tâche, obéir à la parole loi de Dieu. Obéir à la loi morale et spirituelle de Dieu. Voilà, c'est ça qui importe. Et ne pas confondre les temps, et en particulier pas confondre avec le temps ecclésial où nous sommes, le temps apostolique qui n'est plus, pas plus que les apôtres ne pouvaient vivre le temps que Jésus allait vivre. D'où les trois parties de la prière sacerdotale. Jésus prie pour lui, il prie pour le cercle apostolique, et enfin il prie pour l'Église après le temps apostolique. Alors nous n'aborderons que demain les années 30 à 70. C'est-à-dire le temps apostolique proprement dit. Vous verrez que ce sont des années extrêmement importantes. Alors je vous demande, dans l'entretien qui va suivre, ne essayer, si possible, de ne pas aller plus vite que je ne suis allé. Je veux dire, ne posez pas de questions sur ce dont je vais vous parler demain et après-demain. Essayons de rester soit à ce que je viens de vous dire cet après-midi, soit à ce que j'ai dit ce matin, soit à ce que je vous ai dit hier. Autrement dit, n'allons pas plus vite que la machine. Prenons le temps qu'il faut pour que l'entretien se déroule sur les points où nous sommes. Pour le moment, nous en sommes encore au temps des années 30. Ça fait partie des années 30 que les prophéties qu'a donné Jésus ou que la prière qu'a faite Jésus dans les années 30. Mais il faut attendre les temps apostoliques pour parler des temps apostoliques. Alors, est-ce que vous désirez, là nous avons tout à fait le temps, vous pouvez prendre 10 minutes de hein, pour... Allez-y. Si vous voulez bien, vous savez, je suis un peu dur d'oreille. C'est pas tellement de parler fort, mais de bien articuler. Alors, dans l'articulation,
je vais commencer par la question qui touche à juste ce que vous avez dit sur la période apostolique et post-apostolique.
Ouais.
Comment, à partir de là, les modèles ecclésiaux du Nouveau Testament peuvent être applicables pour nous, parce qu'après tout, ça appartient à la période apostolique et pas post-apostolique. Alors, comment vous situez ça? Est-ce que, dans quelle mesure ça doit être pris en compte et dans quelle mesure ça ne doit pas l'être?
C'est une bonne question. Mais c'est une question difficile. Je veux dire, vous me posez une colle. Vous me posez une colle. Voyez-vous, si on regarde aux temps apostoliques, il y a deux points qui me paraissent être soulignés. Le premier point, c'est que, au point de vue organisation, il n'y a pas d'organisation générale ou que dans une faible mesure, quelquefois, il y a seulement une certaine organisation, je ne sais pas, on ne peut même pas dire organisation, il y a une certaine qualification régionale de l'Église. Par exemple, on parle des églises de la Galatie, vous voyez. Mais en réalité, les églises du temps apostolique sont des églises locales.
Plutôt congrégationalistes.
Non, je ne dirais pas congrégationaliste, parce que le mot congrégationaliste typifie une forme d'église. Et non, c'est plutôt qu'il y a des églises implantées localement ici ou là. Il y a l'église qui est à Rome, l'église qui est à Éphèse, l'église qui est à Jérusalem, l'église qui est ici et ça. Je vous dis, la seule chose que je vois, mais peut-être je me trompe, c'est qu'il y a en effet les églises de Galatie, par exemple. Donc, il semble bien que... je ne vois pas en dehors des églises locales une organisation quelconque. Même le fameux concile de Jérusalem, dont je toucherai peut-être un mot, oui, je toucherai un mot, en tout cas mon livre en touchera un mot, le concile de Jérusalem, en réalité, ce n'est pas vraiment un concile, parce qu'il n'y avait pas tellement des représentants des églises locales, il y avait essentiellement des apôtres et des anciens qui se sont réunis à Jérusalem. Au fond, c'est plutôt que les apôtres se sont réunis à Jérusalem avec des anciens. Et peut-être que les anciens qui sont là, c'est surtout des anciens de Jérusalem, d'ailleurs. Ou bien de oui.
Mais ma question vise un peu plus loin que ça, carrément la doctrine des ministères.
Oui, mais alors là, si vous voulez, c'était mon premier point. Mon deuxième point, je vous ai dit qu'il y avait deux points. Le deuxième point, c'est que la seule chose qui apparaît dans le Nouveau Testament, c'est que dans un premier temps, tout au moins, au temps apostolique, et chaque église locale est conduite, gouvernée, si vous voulez, par des anciens, par des presbytères. Et ces presbytéroïs s'appellent quelquefois, les mêmes s'appliquent quelquefois pasteur, hein, pasteur c'est le mot qui est employé, ou évêque, épiscopoi, ce qui veut dire ceux qui veillent sur, hein, puisque c'est ça, épiscopoi, ceux qui veillent sur. Alors on a donc presbytéroïs, épiscopoi, qui sont plus ou moins confondus. Bon, c'est seulement avec les lettres à Timothée et à Tite qu'ils sont, je marche là sur la pointe des pieds, qu'il semble que les épiscopoi prennent une place plus importante que les anciens. Et encore, ça peut se discuter, mais ça peut se discuter dans les deux sens. Oui. Mais c'est vrai, on a là l'Église telle qu'elle a existé au temps apostolique. Et en plus, ce qui complique les affaires, c'est qu'alors on a affaire à des gens très curieux, dont je toucherai un mot demain encore, c'est que on a affaire à des prophètes. Et très souvent, les prophètes sont d'ailleurs associés aux apôtres. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça ne veut pas dire sur le fondement des prophètes de l'Ancien Testament et des apôtres du Nouveau. C'est les apôtres et les prophètes. Et il y a des prophètes. Je pense pas seulement à Agabus, mais il y a des prophètes. Et il semble bien que ces prophètes sont un ministère spécifique du temps apostolique. Et puis il y a là aussi les docteurs. Nous, dès qu'on voit docteurs, on pense à des docteurs en théologie, à des gens bardés de diplômes, à des gens. Bon. Oh, pas du tout. Là, ce sont des enseignants. Des enseignants. Donc il y a des ministères différents, d'anciens, d'évêques, d'anciens évêques, de prophètes, d'enseignants. Hein, voilà. Mais c'est sous la forme d'un embryon d'Église, à bien des égards. Bon, alors je réponds maintenant à votre question. Je ne vois rien dans le Nouveau Testament, en dehors du fait que chaque Église locale doit être conduite par une équipe d'anciens, je ne vois rien qui empêche, vu des situations différentes, vu, je dirais, tous les développements historiques de l'Église, rien qui empêche, en dehors de l'équipe d'anciens conduisant chaque église locale. Mais, vous voyez, chaque église locale. J'en ai beaucoup discuté avec nos amis, les frères de l'église Saint-Jean de Malte, parce que eux, c'est une question qui les a beaucoup préoccupés. Or, ils ont fait une constatation très intéressante. C'est que, jusqu'au-delà du temps de Saint-Augustin, c'est-à-dire jusqu'au 5e siècle au moins, et probablement plus, il y a, au fond, les églises avaient en tête chacune un évêque. Mais attention, l'évêque n'était pas du tout l'évêque, comme c'est devenu, d'un diocèse. Mais frère Daniel m'a montré, texte en main, que l'évêque présidait un concile d'anciens, un conseil d'anciens d'une église locale. Mais l'église locale pouvait comprendre un petit secteur. Un secteur, mais ce n'est pas un secteur d'une seule ville, mais c'était, il y avait une multiplicité d'évêques. Par exemple, Saint-Augustin, qui a été évêque d'Hippone, il y avait, je ne sais pas, je ne me souviens plus du nombre comme a indiqué Daniel Bourgeois, mais il semble bien que, si vous voyez, il y avait plusieurs centaines d'évêques en Afrique du Nord. C'est-à-dire que l'évêque, c'était le président pratiquement d'une église locale. Mais il n'était président de l'église locale qu'avec auprès de lui un conseil d'anciens. Et c'est de là que vient le mot prêtre. Parce qu'au fond, il faut bien faire attention là, au point de vue vocabulaire. Les prêtres et les sacrificateurs, c'est pas du tout pareil. Les sacrificateurs, c'est les gars de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a des prêtres, les presbytéros. Au fond, prêtre est une contraction du mot presbytéros. Alors là, je crois qu'effectivement, on peut avoir des variations possibles historiques. Nous n'avons nulle part une indication donnant un ordre sur l'organisation des églises après le temps apostolique. Je réponds à votre question. C'est bien ça que vous voulez savoir. Autrement dit, je ne crois pas qu'on puisse tirer une ecclésiologie immuable pour toute la durée des siècles des données des églises qui sont toutes des églises du temps apostolique, puisque tout le Nouveau Testament est écrit avant l'an 70. Donc nous sommes en plein dans le temps apostolique. Alors, il n'y a qu'une chose, c'est que on ne voit jamais une église locale livrée à un homme. Il y a toujours un conseil. Alors, si il y a un évêque qui préside à une église locale, qui peut comprendre, par exemple, Hippone était une petite ville, c'était pas une grande ville, hein. Il était évêque d'une petite ville. Mais déjà, il y avait la banlieue, enfin la banlieue, pas exactement, mais il y avait un peu des villages autour. Bon, mais c'était simplement ça, Hippone. Et alors, il y avait un président qui était appelé évêque, épiscopos. Et puis, mais il avait un conseil d'anciens. Il y avait un conseil de prêtres, de presbytéroi auprès de lui. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester là. Et alors nous avons, par exemple, certains théologiens réformés actuellement, et je ne crois pas qu'ils aient tort, disent que quand même nous avons l'indication dans l'Ancien Testament, dans la Torah, vous savez, quand on dit à Moïse, mais tu ne peux pas y arriver, mon pauvre, il faut répartir le travail. Alors il y a ce qu'on appelle... attendez, il y a un terme français pour dire la répartition du travail. Comment ça se fait? Je veux dire, il faut qu'il y ait toujours des choses à l'échelle humaine. Voyez. Alors là, dans la Torah, il est indiqué, c'est des groupes de dizaines, des groupes de centaines, délégué. Des groupes de mille. Comment?
Délégué.
Oui.
Il faut déléguer.
Oui, il faut que le pouvoir soit réparti de telle façon. Alors on comprend très bien qu'il puisse y avoir, par exemple, un évêque, ou on peut lui donner un autre nom, qui préside, mais je crois qu'il faut garder, ça c'est le point à garder, il faut toujours que ce soit local. Je veux dire par là, il faut qu'il y ait toujours des limites précises à l'exercice du champ d'action d'une église. Alors, je ne parle pas là des évangélistes ou missionnaires qui vont partir, mais l'Église, elle, locale, elle-même, ça, elle doit être précise. Elle doit être circonscrite. Elle doit avoir des limites, des machins. Et à la tête de chaque Église locale, que ce soit sous la forme épiscopale, que ce soit sous la forme presbytérienne, ça peut se discuter, l'important, c'est que l'homme qui est à la tête de l'Église ne doit jamais être seul. Et il doit être entouré d'une équipe. Alors l'équipe, ça veut dire trois hommes, ça peut vouloir dire trois hommes, ça peut en vouloir dire dix. Mais là aussi, c'est dangereux, parce que dès que vous dépassez un certain nombre, alors là, vous entrez dans des difficultés. Alors à ce moment-là, il vaut mieux faire plusieurs... Moi, je suis essoufflé de savoir, par exemple, qu'aux États-Unis ou en Corée du Sud, on parle d'église de 15 000 personnes. Mais ça me paraît complètement aberrant.
300 000.
Quoi? Et même de 300 000. Ah oui, on est en pleine... Non, mais c'est de l'aberration. C'est de l'aberration. Mais même sur un plan, j'allais dire simplement un plan de bon sens, c'est monstrueux d'avoir une église si nombreuse. Et dans le Nouveau Testament, il semble bien qu'au contraire, on va vers la plus grande multiplicité des églises. Progressivement, chaque église elle essaime et elle fait. Il y a d'autres églises qui se forment. Hein, voilà. Et on n'essaye pas du tout de garder la domination, si je puis dire, les anciens ou les évêques, justement étendre leur domination sur les territoires de plus en plus grands. Or, c'est un peu ce qui est arrivé dans l'histoire. Et pour Daniel Bourgeois, qui est donc théologien catholique romain et prêtre catholique romain, il considère que c'était un grand malheur que les évêques aient des diocèses de plus en plus vastes et tout ça. Il pense que il a été frappé, il a vu la chose. Je vous dis, c'est par centaines que se comptaient les évêques en Afrique du Nord. Ça veut dire finalement, qu'est-ce que c'était qu'un évêque? C'était le président d'une église locale et il dirigeait cette église locale avec l'aide d'un certain nombre de presbytéroïs, d'anciens.
Juste, c'est pour information, est-ce qu'il y avait mention de diacres? Parce que vous n'avez pas du tout à aucun moment mentionné les diacres.
Non, c'est simplement un oubli de ma part. En effet, je veux dire, il y avait les diaconoïs. Et alors, les diaconoïs, c'est très intéressant parce qu'en fait, on dit souvent, on voit leur institution dans Actes chapitre 7, au moment de la distribution pas les hellénistes rouspètent parce qu'ils trouvent que leurs veuves ne sont pas aussi bien traitées que les veuves des juifs proprement dit, hein, puisque les hellénistes, c'était un peu des prosélytes, des juifs par accro, ils ne faisaient pas partie des vrais juifs, des vrais de vrais. Bon, alors ils se plaignent, les hellénistes disent non, alors on. Pour plus qu'il y ait de choses. Alors, on choisit. Or, le mot diacre n'est pas employé dans ce texte. Il n'est pas employé. Par contre, on nous dit par la suite que Philippe, par exemple, ou l'autre là, Étienne, sont des diacres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas du tout des diacres qui s'occupent des veuves ou qui s'occupent de la distribution des vivres, tout ça. Il semble bien que ce soit des évangélistes, en fait. Ou en tout cas, ils ont un rôle de prédicateur. Étienne est un prédicateur, Philippe est un prédicateur. Si bien que on peut dire que il semble que les diaconoi ont été des auxiliaires pour aider les autres. D'ailleurs, il était recommandé que les conducteurs d'église puissent vraiment vaquer à l'enseignement, à la prédication de la parole de Dieu et à la prière. Et qui devait être complété, si vous voulez, par les gens. Ce qui montre, alors là on a une indication dans votre sens, ce qui montre qu'au fond, très vite, on a adjoint aux anciens des auxiliaires.
Mais une circonstance.
Or, ça peut encore se développer. Le point, alors par rapport à notre époque, c'est très important, et par rapport au point de vue écuménique, j'entends dans une vision de l'Église générale, on peut se poser la question. En tout cas, tous les anciens et tous les épiscopoi n'ont de charge qu'après l'ordination par imposition des mains. Ça, il faut être très clair. Et alors là, nous avons un enseignement précis dans les lettres dites pastorales de Paul. Autrement dit, nul n'a le droit de s'ingérer dans le ministère sans avoir été dûment ordonné. Alors je dis ça parce que de nos jours, dans beaucoup d'églises, moi je suis frappé de voir dans ma propre église, mais c'est vrai dans d'autres églises sœurs, on considère qu'on peut parfaitement se passer de l'ordination par imposition des mains, et au fond entrer dans le ministère, comme ça. Et alors on a simplement, dans l'église réformée de France, par exemple, ce qu'on appelle la reconnaissance des ministères. Alors on peut reconnaître n'importe quoi, on est reconnu comme moniteur, comme chef éclaireur, on pourrait aussi bien comme femme de ménage, comme n'importe quoi, comme balayeur de l'église, etc. D'ailleurs on est allé un peu dans ce sens dans l'église romaine à un moment donné, puisqu'il y avait la charge de portier, il y avait la charge de... Or je crois que quand même, il y a le ministère de la parole et des sacrements, qui est confié à ceux qui ont reçu l'ordination ou la consécration par l'imposition des mains. Et alors là, c'est là ce qui fait une continuité avec l'ancienne alliance aussi. On ne s'ingère pas dans le Saint-Ministère. On est introduit par l'Église dans le Saint-Ministère et par des gens qui ont déjà eux-mêmes reçu l'imposition des mains. C'est là où je crois qu'il y a une certaine succession apostolique. Bien sûr, la vraie succession apostolique, c'est d'être fidèle à l'Écriture sainte, d'être fidèle à la tradition apostolique. Mais il n'empêche que dans cette chaîne de fidélité, il doit y avoir aussi une chaîne de succession apostolique. Au fond, il y a une continuité. Et ça, alors Calvin, on parlait de Pierre Martyr Vermigli, tous les réformateurs, Bucer, Knox et tout, sont formés. Je crois qu'à l'heure actuelle, les protestants, en dédaignant l'ordination par imposition des mains, sont en train de s'écarter complètement tant du Nouveau Testament, ce dont d'ailleurs beaucoup se fichent, que de l'enseignement des réformateurs eux-mêmes. Comment ?
Ce dont ils se fichent encore plus.
Ceux qui sont. Voilà. Alors, moi je pense que là, il faut être très net. Nul ne peut devenir pasteur sans avoir reçu l'imposition des mains de gens qui étaient eux-mêmes déjà pasteurs, et c'est là où il y a une chaîne quand même de succession apostolique. Ceci dit, les devoirs de ceux qui ont été ordonnés, c'est un devoir de fidélité à la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas opposer une succession apostolique qui ne serait qu'extérieure à une succession apostolique qui ne serait qu'intérieure. Pourquoi ? Parce que, justement, nous ne sommes pas des êtres purement intérieurs, ni, heureusement, des êtres purement extérieurs. Nous sommes composés de corps et d'âme, et d'ailleurs, c'est là ce que Calvin soulignait au sujet des sacrements. Et ce que Pierre Martyr Vermigli, puisque nous avons parlé de lui, qui était un réformateur très important, dont Calvin disait que nul n'avait mieux parlé des sacrements que lui. Donc Pierre Martyr Vermigli, dans l'ensemble des sacrements, c'est un bonhomme très important. Et alors si vous remontez à Viret, puisque je vais parler de Pierre Viret, c'est la même chose que Pierre Viret. Pour les réformateurs, Luther. D'ailleurs, Calvin va si loin que pratiquement, relisez l'institution chrétienne, pour lui, l'ordination est un sacrement. Il ne l'appelle pas sacrement, pourquoi ? Uniquement parce que ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour Calvin, c'est un acte sacramentel. L'ordination est un acte sacramentel et on ne peut pas escamoter cet acte sacramentel de l'ordination. Alors là, c'est... voilà, mais je dirais, à côté de ça, il y a un essentiel, donc il faut garder, conserver, fidèlement. Mais je crois qu'il faut avoir une grande souplesse selon les circonstances historiques. Il y a des nouveaux besoins qui peuvent être créés, et donc il ne faut pas vouloir rester dans un cadre qui, d'ailleurs, je vois nulle part ce cadre, en dehors de ce que nous venons de dire, être imposé par nous dans la tradition apostolique. Je le vois par les écrits du Nouveau Testament, nous disant, voilà comment il faut que ce soit, ric-rac, et puis pas autrement. Non. Et déjà, rien que dans le temps apostolique, il y a eu une grande souplesse. Une grande souplesse. Alors, disons qu'il y a un essentiel, en particulier, il y a un ministère ordonné qui doit être poursuivi dans une succession. Voilà, ça c'est un enseignement précis. Alors, on peut pas, il est incontournable celui-là. De même, une église locale ne doit pas être dirigée par un seul bonhomme, mais doit être dirigée en équipe. Maintenant qu'il y en ait un pour présider, ça d'accord. D'ailleurs, on parle de Saint Paul parle de celui qui préside. Et celui qui préside, je ne crois pas que c'est celui qui préside simplement un culte, c'est celui qui préside vraiment une église. Donc il peut y avoir un évêque, un épiscope, on peut lui donner le nom qu'on veut, qui préside l'église locale, mais avec un conseil.
Et celui qui préside, c'est celui qui est habilité pour administrer les sacrements et pour la prédication de la parole.
Oui.
Tandis que le conseil n'est pas habilité pour...
Oui, voilà. Mais attention, je crois que là aussi, il faut faire preuve de souplesse. Il peut y avoir l'évêque a toujours la possibilité, ou le président a toujours la possibilité de déléguer tel ou tel de ses pouvoirs. Mais personne n'a le droit de s'ingérer de lui-même là-dedans. Autrement dit, l'ancien qui est chargé de faire telle ou telle chose ne peut le faire que sous l'autorité légitime de celui qui préside l'église locale. Comment ?
Il faut l'appel extérieur.
Voilà, il faut les deux. Enfin, c'est la grande doctrine calvinienne. Aucun appel intérieur ne peut exister sans la garantie de la vocation extérieure. Alors, c'est toute la doctrine, vocation externa, vocation interna, et c'est très important de maintenir les deux. De même, c'est très important, Calvin le dit, n'est-ce pas ? Dieu sait que nous ne sommes pas des créatures spirituelles et des anges. Et c'est pourquoi il a voulu que la parole soit toujours accompagnée par des sacrements ou des actes sacramentels qui confirment la parole, qui scellent la parole, qui signifient la parole, qui... voilà, ça marche ensemble. C'est pour ça qu'il y a un beau nom qu'il faut maintenir, être ministre de la parole et des sacrements. Hein, moi, je crois que... Alors là, bien sûr, on peut résumer en disant ministre, comme on disait dans l'Église réformée autrefois, au XVIe siècle, ministre du Saint-Évangile. Bon. Mais enfin, je dirais, le vrai titre, c'est ministre de la parole et des sacrements. Et les deux sont compris dans ce que Paul appelle les mystères de Dieu. Nous sommes dispensateurs des mystères de Dieu. C'est formidable. Vous savez, il y a de quoi trembler. Mais en même temps, c'est là la vocation... Être dispensateur des mystères de Dieu, être bon serviteur, fidèle serviteur de la parole et des sacrements de Dieu.
Dans l'ecclésiologie réformée, le pasteur est un évêque dans sa paroisse, en quelque sorte.
Oui.
Ça se joue.
Oui,
sur le plan
ça
local.
Se joue à cette différence près, c'est que.
Dans une église donnée.
Ça n'a pas, à l'heure actuelle, dans beaucoup d'églises protestantes, au fond, on considère le conseil presbytéral comme un organe représentatif. Je ne crois pas. Je crois que dans une paroisse assez importante, ça peut être très nécessaire de réunir un jour tous ceux qui travaillent d'une façon ou d'une autre dans l'église. Il y a des moments, par exemple, où je crois très bien qu'on, s'il y a un sacristain, le sacristain peut venir, s'il y a un chef éclaireur ou une cheftaine de louveteau, ils peuvent venir. Bon, tous ceux qui ont un service dans la communauté peuvent venir. Mais ça, c'est purement représentatif. Autrement dit, c'est pas l'organe gouvernemental. Or, on a confondu les deux. Bien des conseils, ce qu'on appelle des conseils presbytéraux aujourd'hui, ça n'est pas du tout un... Normalement, si vous êtes dans une église comme celle d'Aix-en-Provence, je parle de l'église réformée d'Aix-en-Provence, au maximum, il faudrait qu'il y ait peut-être 6 ou 7 conseillers presbytéraux aux côtés du pasteur. Pas plus. Mais... Je crois que dans la mesure où l'Église est suffisamment avec une variété de services de militaires, je crois que de temps en temps, il faut réunir tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, travaillent dans une petite paroisse, on convoque toute la paroisse dans ces cas-là. C'est bon alors de convoquer toute la paroisse. Mais si la paroisse est trop grande, moi je vois par exemple dans l'église dont j'étais pasteur à Paris, il y avait plus de 700 familles. C'était pas possible de réunir des représentants des 700 familles. Non, mais je distinguerai le conseil presbytéral d'une assemblée représentative de l'Église qui est nécessaire dès qu'une paroisse peut-être est un peu importante, vous voyez. Mm-hmm. Il faut restaurer le sens des ministères.
C'est un autre sujet, alors je peux...
Oui, non, mais on peut changer de sujet.
Seulement, je me vous demander de... Si vous pouvez nous donner quelques arguments pour pouvoir arriver si sûr que possible à dater le Nouveau Testament avant l'année 70. Ça m'intéresse beaucoup, particulièrement, de façon très, très particulière, parce que vous avez dit que le Nouveau Testament était déjà fini dans l'année 70, c'est-à-dire... le quatrième évangile, l'Apocalypse, c'était déjà écrit avant. Alors, est-ce que vous l'avez énoncé bon. Seulement si je pourrais, ou nous pourrons savoir des arguments, quelques arguments alors.
Bon, alors, les arguments, j'ai indiqué hier, mais je l'ai fait trop rapidement sans doute, vous avez trois livres sur la datation du Nouveau Testament, qui sont, un, le grand livre de Robinson, vous l'avez lu.
C'est un autre.
Non, je l'ai déjà lu. Ah oui, mais non, ah oui, c'est vrai. Mais je lis, c'est de rédacter le Nouveau Testament des Robinson.
Oui, le gros.
Oui, oui.
Là, le petit potentiel.
Non.
Voilà. Vous avez ensuite, je voulais apporter cet après-midi le livre de Wenham, de John Wenham, qui est publié en 91. C'est-à-dire qui est récent. Si je me souviens bien, Robinson, ça date déjà de la fin des années 70, 78, quelque chose comme ça, non ?
76.
Hein ?
76.
76. Bon, donc Robinson, c'est 76. Le livre de Wenham, là, c'est 91. Et puis alors, je vous ai indiqué un troisième livre qui parle de l'Apocalypse. Et alors, l'intérêt, c'est qu'il démontre en même temps que l'Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament. Et c'est un livre qui est intitulé, excusez, hein, ceux qui sont anglo-saxons parmi vous doivent trembler chaque fois que je dis des choses en anglais, mais ça s'appelle « Before Jerusalem Falls », avant que ne tombe Jérusalem, avant la destruction de Jérusalem. Alors là, c'est un livre de Kelly, K-E-2-L-Y, qui, lui, est aussi un livre, alors récent, il doit être de 87 à peu près. Vous voyez, c'est un livre qui date de 5 ans. Alors, vous avez là trois livres. Mais, vous avez une chose dont je n'ai pas du tout parlé, j'ai eu tort peut-être de ne pas encore en avoir parlé, je vous ai parlé des prédictions de Daniel. Le mot prophète, vous le savez, vient de deux mots grecs, prophaimi, qui veut dire parler, alors pro, ça peut avoir plusieurs sens, où vous parlez devant. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle devant le peuple, qui parle devant les rois, qui parle devant tel groupe. Hein? Celui qui parle devant. Celui qui parle aussi au nom d'eux. Il parle au nom de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Hein? Il est celui donc. Et puis, troisième sens, mais qui est inclus aussi dans le sens de prophaimi, c'est qui parle à l'avance. Et quelquefois, d'ailleurs souvent, à notre époque, on croit que la grande tâche des prophètes, c'était de faire des prédictions, c'est-à-dire de parler d'un événement avant qu'il arrive. D'ailleurs, dans le libéralisme exégétique, c'est l'inverse. Toute prophétie d'un prophète n'est pas d'annoncer un événement, mais parle d'un événement qui est déjà arrivé. D'ailleurs, vous savez, d'ailleurs, c'est un des grands points de Wellhausen dans ses Prolegomena. Wellhausen dit « Toute prophétie ne peut avoir été prononcée si elle est exacte. Qu'après l'événement. Oui, mais...
On ne se trompe pas. Hein.
Comment ?
Oui, on ne se trompe pas comme ça.
Ah non, mais là, oui, mais c'est l'enseignement de Wellhausen. Au fond, il faut lire, vous l'avez en traduction, vous l'avez en allemand et vous l'avez en traduction anglaise ici. Il faut lire les prolégomènes, en français, ça n'a pas été traduit. Vous pouvez lire les prolégomènes de Wellhausen. Ces formules-là, on oublie toujours de voir quelles sont les présuppositions de l'école critique. On n'essaye pas, mais c'est alors, on vous verrait, c'est écrit noir sur blanc. Bon, alors, vous avez avec Daniel un homme qui a fait un certain nombre de prédictions. Je vous parlerai par exemple des sept septèmes, c'est-à-dire des 490 ans qui sont prédits par Daniel, avec toutes les prédictions qu'il donne sur la dernière semaine de l'ancienne alliance, c'est-à-dire sur les années qui vont de 64 à 70. C'est la dernière semaine, les derniers 7 ans. Mais c'est d'une précision extraordinaire. Or, Daniel, pour quelqu'un qui croit bien sûr à l'inspiration et à l'autorité plénière de l'écriture, ça ne pose pas de problème, il dit que dans ce temps-là, dans cette dernière semaine-là, seront achevés, il emploie même l'expression, seront scellés la vision et la prophétie. Autrement dit, nous avons, nous réformés, qui croyons à l'autorité de l'Écriture, nous avons un texte du prophète Daniel indiquant qu'avant l'année 70 de notre ère, la Bible sera achevée. La vision et la prophétie seront scellées. Bon, alors, bien sûr, là aussi, il faut étudier le livre de Daniel. Il faut poursuivre l'exégèse du livre de Daniel. Mais c'est un argument d'ordre scripturaire qu'on ne peut de toute façon pas ne pas examiner. Hein? Mais c'est quand même important. C'est là où je dis que nous avons affaire avec les prophéties de Daniel à des indications très curieuses. Parce que les 490 ans dont parle Daniel, les 7 septaines, dont parle Daniel. Les 70 septaines dont parle Daniel, c'est quand même important. Il parle d'une période de 490 ans qui va courir de l'édit de Cyrus jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et parce qu'il parle de Jésus-Christ dans cette prophétie, il parle du roi Messie qui va donner sa vie. Bon, alors, en même temps, dans cette prophétie, il parle de la clôture, de l'achèvement, du scellement.